Micro Hebdo, un magazine spécialisé dans le domaine de l'informatique, a consacré son numéro du 6 septembre 2012 à un dossier de 4 pages consacré à l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Son titre, Wikipédia est-il fiable ? Ce dossier plutôt bien documenté a le mérite de proposer des thèmes qui font largement débat dans notre profession d'enseignant. Nous avons donc souhaité, dans le cadre de notre rubrique « Le sujet du jour », de relever le défi de la discussion et de constituer une vraie table ronde pour ajouter notre modeste contribution à la réflexion qui agite le monde éducatif autour de cette encyclopédie en ligne. Ce sont Anne, Marie, Jean-Luc et Philippe qui vont s'employer à répondre à cette grande question. Comment former les élèves à s'approprier les contenus dans Wikipédia? Et pour lancer le dialogue, je vous propose de partir d'un cas concret. Le professeur de français donne une recherche à faire à ses élèves et ceux-ci semblent penser qu'ils ont fait leur travail en fournissant l'extrait d'un article copié dans Wikipédia. Alors, chers collègues, cette encyclopédie en ligne est-elle un vrai outil pédagogique ou un fast-food du savoir, comme l'écrit Sonia Cavalotti dans son article de Micro Hebdo?
Alors, faisons un petit historique tout d'abord. Le projet Wikipédia a été lancé en 2001 et à l'heure actuelle, c'est plus de 10 millions d'internautes qui consultent cette encyclopédie et parmi eux, bien sûr, nos chers élèves. L'idée était dès l'origine d'utiliser le wiki pour faire collaborer tout membre désireux d'apporter son savoir. Seulement, les problèmes que pose ce projet encore aujourd'hui sont l'absence de médiation et le refus d'imposer une hiérarchie entre les contributeurs. Alors cela suscite en effet des débats acharnés sur la qualité et la fiabilité des articles proposés. Qu'en est-il alors dans nos enseignements aujourd'hui et pourquoi, Jean-Luc, Wikipédia devient-elle une ressource numérique incontournable ?
Alors pour répondre à ta question, j'ai donc lu, afin de prendre un petit peu de hauteur, un ouvrage un peu théorique qui s'intitule « Wikipédia, médias de la connaissance démocratique », fait par Marc Foglia en particulier, mais c'est un ouvrage collaboratif dans lequel il fait parler pas mal de chercheurs spécialistes de la question. Donc tout d'abord, il faut rappeler que Wikipédia est une invention américaine, à l'origine un certain Jimmy Wales. Or, à ce titre, c'est quelque chose qui entre finalement assez en conflit avec nos représentations jacobines et élitistes du savoir. C'est une invention libérale, dans le sens où les fondateurs croient fermement que la libre concurrence entre les différents contributeurs permettra d'obtenir une production optimale. Les différentes études qui ont été menées leur donnent partiellement raison. Il y a finalement peu d'erreurs, effectivement, qui restent longtemps en place sur les articles beaucoup consultés. Je précise, sur les articles beaucoup consultés. Reste qu'il y a des sabotages délibérés, lancés par des farceurs, et des articles portant sur des sujets confidentiels qui peuvent être fantaisistes, voire purement inventés. Il y a un exemple très rigolo qui est souvent donné, c'est celui du canular autour d'un personnage qui s'appelait Léon Robert de Lastran, personnage complètement imaginaire, qui a été présenté par l'auteur de l'article comme un farouche opposant au commerce triangulaire et que même Ségolène Royal avait fini par citer sur son blog et dans un article. Et il a fallu un certain temps pour dépister le canular. Autre nuance de taille, les études ont toujours porté sur des corpus d'articles finalement assez limités, ce qui nous oblige à nuancer le constat de grande qualité de l'encyclopédie. En revanche, l'inspiration libérale du projet ne peut que le rapprocher d'une autre grande encyclopédie, la grande encyclopédie du XVIIIe siècle, à la différence près que cette dernière était abondée par des érudits, ce qui n'est pas du tout le cas de Wikipédia. Autre point, là où les choses, je dirais, se corsent, c'est que ce projet libéral a aussi un pendant communiste ou communautaire plus surprenant. En effet, les fondateurs, et donc Jimmy Wales en particulier, défendent bec et ongle la gratuité totale de l'encyclopédie. Aux grandes dames, de personnages par exemple comme Bill Gates, qui lui souhaiterait créer une encyclopédie concurrente, mais bien sûr commerciale. Le souci de gratuité, qui apparente la communauté de Wikipédia à un ordre mendiant de la connaissance, pour reprendre la terminologie de Marc Foglia, va très loin, puisqu'en fait, des versions DVD gratuites, ça j'ai appris en lisant cet ouvrage, je ne le savais pas, des versions DVD gratuites sont gravées exprès pour être offertes aux pays où on n'a pas Internet, où la population ne bénéficie pas d'Internet. Nous sommes donc face à quelque chose de tout à fait nouveau dans l'ordre de la production intellectuelle. Les contributeurs sont anonymes et l'acceptent, un peu comme les auteurs du Moyen-Âge, finalement. Aucune rétribution ne récompense un travail, pourtant intense, de la part des 2 ou 3 000 auteurs réguliers, par exemple, de la version française. On peut, en ce sens, parler d'un véritable miracle Wikipédia, car si, par exemple, en l'an 2000, quelqu'un s'était avisé d'écrire un tel ouvrage, un tel projet, tout le monde aurait ricané et aurait dit que c'était complètement impossible. Or, le pire, c'est que ça marche, et que ça marche finalement plutôt bien. Cependant, c'est pas sans poser quelques problèmes. En effet, en quelques années, Wikipédia a tué des encyclopédies prestigieuses, qui étaient de véritables institutions. La Brockhaus allemande, par exemple, a acheté l'éponge en 2009, alors qu'elle existait depuis 1809. Universalist, pour la France, est tombé de 20 000 clients par an à 3 000, et s'est résolu maintenant à abandonner purement et simplement sa version papier. Donc, Wikipédia, finalement, menace la diversité. Et sans diversité, qu'en sera-t-il de la qualité ? Dernier point intéressant à prendre en compte, le couple infernal que forme... Alors, je reprends le couple infernal, c'est encore une expression de Marc Foglia, mais qui me semble bien trouvée. Que forment Wikipédia et Google ? En effet, lorsque vous faites une recherche, remontent systématiquement les sites les plus visités. C'est ça qui explique qu'en fait que Wikipédia soit la première offre qui vienne. C'est donc la loi de la majorité qui s'impose. Or, bon, ça pose la question, est-ce que les majorités ont toujours raison ? Dans la logique, je dirais, libérale et américaine, oui. Il est important de montrer aux élèves les sites que, en fait, quand vous faites une recherche Wikipédia, que les sites qui sont proposés ensuite, les réponses qui sont proposées ensuite, sont souvent, bien souvent, je l'ai vérifié, la source, en fait, de l'article Wikipédia. Et c'est qu'en fait, le contributeur a caviardé une source officielle. Et finalement, l'article de Wikipédia, on peut retrouver sa source en allant plus loin dans les recherches. Ce qui est, à mon avis, une démarche assez saine, puisqu'on revient finalement à l'origine de la connaissance. Bon, voilà pour ce petit résumé d'un bouquin très très riche qui nous amène, je pense, à prendre un petit peu de hauteur par rapport au sujet, à mieux comprendre de quoi l'on parle et sur quoi on travaille.
Alors effectivement, c'est important de garder toutes les données en mémoire. Et Wikipédia étant un des premiers liens accessibles dans les moteurs de recherche, et notamment Google, c'est la référence quasi unique des élèves. Et pour moi, je trouve que les élèves deviennent assistés dans la recherche documentaire et se contentent de cette facilité. Très souvent, ils pratiquent un copier-coller et prennent le contenu tel quel.
Alors le problème du copier-coller, il n'est pas propre à Wikipédia. C'est de toute façon le réflexe de nos élèves sur la quasi-totalité des sites qu'ils consultent. Et parfois même, je l'ai remarqué dans mes classes, ils ne lisent pas vraiment l'intégralité de ce qu'ils copient-collent. Donc c'est pour cela que dans le cadre de notre enseignement de la lecture, notamment celle des textes documentaires, je suis convaincue qu'il faut leur apprendre à consulter un site web en général, et évidemment Wikipédia en particulier. Notre but étant qu'un jour, ils fassent leur recherche sans nous, de manière autonome et avec un certain recul critique, on ne peut pas aujourd'hui ne pas enseigner à nos élèves comment utiliser Wikipédia. Même si, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les informations publiées semblent de plus en plus fiables, déjà nos élèves ne sont pas à l'abri de consulter un article contenant des erreurs. Donc on ne peut pas leur dire d'utiliser cette source sans méfiance. Il faut vraiment les prévenir qu'ils ne peuvent pas prendre toujours le contenu pour argent comptant. Et puis, donc je pense qu'on peut déjà les amener, par exemple, à faire des vérifications sur une encyclopédie papier, voire même une encyclopédie en ligne qui a autorité, notamment par exemple Larousse. Donc, pour moi, deux choix s'offrent à nous en tant qu'enseignants. Leur donner aussi une sitographie où travailler les mots-clés et les adresses web pour qu'ils sélectionnent eux aussi, seuls, cette fois-ci, des sites autres que Wikipédia pour leur recherche Internet, ou bien donc justement leur apprendre à utiliser ce fameux Wikipédia.
Donc en réalité, Anne, si j'entends bien, grâce à Wikipédia, l'élève se sent quand même rassuré car il trouve du contenu et une réponse au travail que l'enseignant demande. Mais alors, quelle stratégie pourrait-on mettre en place pour faire adopter aux élèves un regard critique face à ce puits d'informations ?
Alors, parmi les stratégies, la première, eh bien, c'est tout simplement de leur montrer quelquefois, alors juste en prenant un article de grand spécialiste, donc leur montrer qu'en fait, il n'est peut-être pas adapté à leur niveau et au niveau de recherche qu'on exige d'eux. Donc ça, c'est assez simple, hein. On prend un article, on le lit avec eux, et puis ils vont voir très simplement, très rapidement d'ailleurs, qu'ils n'ont pas toujours bien compris le sens des propos prononcés par le spécialiste. Bien, ensuite, moi, je ne les laisse jamais seuls, de toute façon, face à Wikipédia. Ça peut être la deuxième stratégie, c'est-à-dire leur donner des questionnaires ciblés, guidés, adaptés à leur niveau, donc avant de les lancer dans une recherche documentaire. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec eux sur la manière de consulter et d'appréhender une page Wikipédia rédigée donc de manière complète et complexe. Alors, c'était d'ailleurs cité en introduction. Si on prend le cas, par exemple, d'une biographie, d'une recherche biographique sur un auteur, je sais que je commence par travailler avec eux la construction de l'article. D'abord, qu'ils voient qu'il y a un paragraphe d'introduction qui, généralement, d'ailleurs, présente les informations essentielles. Les dates, le mouvement littéraire de l'auteur, etc. Ensuite, il y a un sommaire qui généralement fonctionne sous la forme de liens hypertextes. Donc, en fonction du questionnaire qu'ils ont, ils peuvent réfléchir sur les parties de l'article qu'ils doivent consulter. Et ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin, d'ailleurs, de consulter forcément l'intégralité de cet article. Après, donc, pour revenir sur le problème du copier-coller, pour s'assurer qu'ils vont lire et ne pas se contenter du copier-coller, eh bien, je pense qu'il est important de bien réfléchir au questionnaire que l'on pose et de la sixième à la terminale, d'établir une sorte de progression dans l'approfondissement des questionnaires. Donc voilà. Donc au bout du compte, je pense qu'en fait, le problème, ça n'est pas véritablement Wikipédia, hein, c'est construire une compétence de lecture. Donc de textes documentaires.
Alors malgré tout, les élèves, on ne peut pas nier, ont trouvé en Wikipédia une solution de facilité et ils ne cherchent quasiment jamais à vérifier la fiabilité et la véracité des informations données. Or, cette entreprise regroupe des contributeurs de tout horizon et pas nécessairement diplômés. Alors, comment puis-je accepter que dans mon enseignement entre des informations non vérifiées scientifiquement? Et d'autant que beaucoup d'articles demeurent médiocres de façon notoire. Alors Philippe, comment faire pour pallier ce problème ?
Alors vaste problème, parce que Wikipédia représente souvent, aux yeux de nos élèves, la solution de facilité. D'autant que les moteurs de recherche, comme l'a dit Jean-Luc, la présentent d'emblée comme la référence. Sauf que le problème, c'est que nos élèves sont souvent dans l'incapacité de maîtriser le propos tenu, et recopie finalement sans comprendre. Alors moi, je vais essayer de vous proposer quelque chose de très concret. Imaginons une classe de quatrième. Trois œuvres d'art sont étudiées, à œuvres d'art réalistes, en prolongement de l'étude d'une nouvelle elle-même réaliste, La Parure de Maupassant. À cette occasion, j'interdis purement et simplement le recours à Wikipédia et j'oblige, entre guillemets, les élèves à avoir recours à certains sites, puis d'en faire une petite synthèse à partir d'un bref questionnaire que j'essaie de qualité en référence à ce que vient de dire Anne. Qu'arrive-t-il pour mes élèves ? Ils se trouvent dans l'obligation d'éviter le plagiat, puisque tout le monde a les mêmes ressources, de réutiliser les informations cherchées pour les mettre en relation avec l'œuvre d'art étudiée. Qu'ai-je obtenu ? Des recherches bien plus pertinentes en les faisant travailler sur un support, en leur donnant un objectif précis, en leur imposant, j'ose le terme, des choix de sites, mais le tout en autonomie. Ils ont ainsi pu comprendre qu'il était possible de récolter des informations sur plusieurs sites et non pas sur une seule référence, et donc de ne pas se contenter de Wikipédia. Je ne le cacherai pas, le travail a dû être amélioré ensuite, en salle multimédia, en apportant des informations, en approfondissant les choses en binôme et en essayant de développer une autocorrection assistée.
Bon, tout ça c'est très bien, mais moi j'ai pu constater qu'il y a plusieurs outils qui ont été mis en place autour de Wikipédia. Wiktionary, Wikicote, Wikibooks, Wikiversity et j'en passe. Et Wikipédia en anglais, en espagnol et en latin. L'encyclopédie collaborative a multiplié les entrées et des produits dérivés en 11 ans, comme si le savoir pouvait s'inscrire sur la toile de manière aussi sporadique. Alors j'ai déjà un peu de mal à tolérer que les élèves aient choisi Wikipédia comme référent suprême de la connaissance, mais que dire de tous ces autres outils, Anne ?
Alors en ce qui me concerne, comme je suis professeure de lettres classiques, pour moi, très honnêtement, c'est très intéressant de pouvoir consulter Wikipédia en latin avec les élèves, donc sur des sujets en relation avec le cours. Alors en ce moment, par exemple, je travaille sur les articles qui concernent les rois de Rome avec les élèves, mes élèves de 4e, donc dans le cadre d'une séquence sur le passage de la royauté à la République romaine. Alors ce qui est très appréciable pour moi, c'est que déjà les élèves, à partir du moment où l'article est sur Wikipédia, se mettent à aborder le latin comme une langue vivante. Alors, la langue, elle est très classique. Certes, la syntaxe est plus simple, hein, plus aisée à comprendre, plus fluide aussi que celle d'un auteur romain donc classique. Mais donc la langue est vraiment correcte et les textes sont longs, donc ça me permet de travailler sur des textes vraiment longs, beaucoup plus longs que ceux que l'on trouve dans les manuels. Et alors, étonnamment, ça ne rebute pas les élèves en termes de quantité. Donc, j'utilise ces documents comme point de départ de recherche documentaire. L'article en latin et non l'article équivalent qui existe en français. Et ils le lisent comme ils lisent un texte dans une autre langue étrangère vivante cette fois-ci. Donc en fait, on travaille la lecture de manière assez traditionnelle. On s'appuie sur les mots transparents, les mots connus, les noms propres. Et donc on mène ce travail de lecture analytique. Alors de temps en temps, donc, je le mène en classe entière, donc en salle traditionnelle avec le vidéoprojecteur. Le texte étant projeté au tableau. Et puis de temps en temps, donc, je les emmène en salle informatique. Et là, c'est tout seul qu'ils doivent prélever les informations et essayer donc de retrouver le contenu global de la page. Ensuite seulement, ils vont consulter, quand elle existe, la page équivalente en langue française pour vérifier et valider les hypothèses de lecture qu'ils ont faites. Alors, je vous disais tout à l'heure que la langue était classique, hein, qu'elle était correcte. Il y a quelques coquilles, quelques erreurs de langue. Elles sont de plus en plus rares, mais ça arrive. Et par contre, ce qui est intéressant pour moi, quand l'erreur est à la portée des élèves, c'est justement de travailler avec eux dessus, d'avoir un débat qui va permettre de la corriger. Donc vous voyez que on travaille la compétence de lecture, mais en même temps, moi, je peux revoir, consolider, voire amorcer certains points de langue et travailler aussi le vocabulaire. Donc, je vous donnais l'exemple tout à l'heure des rois de Rome. Je compte également travailler sur l'article concernant Caius Julius César, notamment la partie donc, qui reprend les grandes dates de sa vie. Et puis, je mène aussi un travail identique sur les empereurs avec mes troisièmes. Et en cinquième, j'avoue que je l'ai même fait en début d'année sur la page concernant les trianomina.
Alors, moi, ce que je constate, c'est que dans l'ensemble, vous n'êtes pas très hostile à Wikipédia. Mais il me semble aussi qu'on est loin du temps de Diderot qui considérait que le projet d'encyclopédie était, je cite, « un ouvrage qui ne s'exécuterait que par une société de gens de lettres et d'artistes épars occupés chacun de sa partie ». Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a le savoir à la portée de la main, mais n'importe qui peut nourrir nos connaissances. Cela est-il si convaincant ?
Alors personnellement, j'ajouterais d'ailleurs que cette encyclopédie est loin d'être parfaite. Tout un chacun peut rédiger un article sur n'importe quel sujet. En quoi cela représente-t-il une démarche scientifique qui offre des garanties ? Beaucoup de cas ont démontré des erreurs dans les informations données. Le nombre d'internautes augmente sans arrêt. L'accès au savoir est donc certes facilité. Mais si les élèves acquièrent des données erronées, quelle confiance peut-on véritablement accorder à ce projet, me semble-t-il bien utopique, Jean-Luc ?
Mais en soi, Wikipédia n'est pas un mauvais outil, surtout si c'est l'amorce d'un approfondissement de la connaissance. Le seul problème, comme tout outil, c'est de savoir, en fait, de bien connaître cet outil, de savoir de quoi il s'agit exactement. Et je pense que les élèves ont besoin d'être informés très précisément par leur professeur à ce sujet. Et par exemple, justement, ce que je disais tout à l'heure, leur faire faire une petite recherche sur le cas de Léon Robert de Lastran, cet adversaire imaginaire du commerce triangulaire que des hommes politiques ou des femmes politiques célèbres ont fini par citer, ce serait très, très formateur et ça leur permettrait de bien comprendre comment marche Wikipédia, quelles sont ses limites.
Mais enfin, je crois quand même que ce qui me dérange le plus et qui me choque, c'est le fait que n'importe quel individu de tout âge, puisse proposer des modifications sur un article rédigé. Jean-Luc, oserais-tu, toi, suggérer une telle activité aux élèves ?
Effectivement, je pense que finalement, peut-être qu'on ne prend pas tout à fait le problème de Wikipédia dans le bon sens. On peut imaginer une autre démarche qui serait effectivement de faire écrire aux élèves un nouvel article, de leur faire écrire par exemple l'histoire, de leur montrer qu'ils peuvent intervenir sur l'encyclopédie. Ne serait-ce que pour tester d'ailleurs la vigilance des contributeurs et voir combien de temps les erreurs peuvent rester en place. Donc ça peut être un excellent exercice, je dirais par exemple, à faire pratiquer en accompagnement, que de faire rédiger un article sur une biographie, par exemple une biographie fantaisiste sur un auteur imaginaire, me semble un bon exercice. Moi, je me propose de le faire avec mes élèves. J'ai essayé de voir un petit peu comment on pouvait contribuer effectivement à l'encyclopédie. Et à titre personnel, j'ai déjà fait une petite expérience et qui semble prouver quand même que c'est pas si fantaisiste que ça au niveau du fonctionnement. J'ai fait une biographie complètement imaginaire d'un auteur inventé. Ça a été publié, mais c'est resté quand même que 3 minutes en ligne.
D'accord. Bon, finalement, vu sa popularité, l'école et les enseignants, les premiers, ont finalement tout intérêt à s'en servir comme d'un outil pédagogique. Et comment ne pas s'en servir pour susciter l'esprit critique, tel que le préconise le socle commun, et montrer ainsi aux élèves qu'une recherche doit être effectuée de manière précise et qu'il incombe à chaque chercheur de vérifier les données trouvées.
Oui, j'ajouterais donc aussi en conclusion qu'il faut se méfier un petit peu de nos a priori, de nos préjugés, et que quelque part le refus de Wikipédia, c'est un peu idéologique. En effet, le fait que les experts perdent le caractère sacré d'une parole verticale, ça nous dérange, nous, professeurs, nous ne sommes pas habitués et préparés à ce miracle, finalement, d'une correction horizontale, de correcteur lambda, qui arrive quand même, grosso modo, à un résultat correct. Ça va à l'encontre de toutes nos, de notre formation, en fait, et ça nous gêne beaucoup. Enfin, donc, aussi, comme je l'ai dit déjà, le problème de l'exactitude des données à 100%, c'est peut-être pas non plus le bon angle de vue en matière pédagogique, hein. Comme à la Renaissance, nous sommes confrontés finalement à une masse d'informations, mais cette fois-ci immédiate. Et le travail du professeur, c'est peut-être plutôt d'apprendre aux élèves à gérer cette masse, à trier là-dedans, à organiser leurs pensées. Et là, finalement, on se rapproche peut-être davantage du rôle du bon conducteur que demandait Montaigne. Hein, et c'est ça, en fait, être un pédagogue. Apprendre aux élèves à avoir l'esprit critique et à gérer les connaissances. Les souris et...